Chapitre 75. Vincent est conduit vers ce que son geôlier a lui-même désigné comme le cabinet spirit. Cette fois, pas de mains liées ni de bandeaux sur les yeux, mais tout de même trois hommes de main aux côtés de Joshua pour décourager toute tentative de fuite. À quatre contre un, Cavell ne va rien tenter, d'autant qu'il n'est même pas certain de se repérer assez pour trouver la sortie. « Tu es privilégié, » lui explique Joshua. « Peu ont l'honneur d'une séance en tête-à-tête avec le mage. Pour ma part, je n'ai assisté qu'à des perceptions collectives. » Il entraîne Cavell sur une sorte de pont de bois qui compense l'écart de niveau entre les étages de deux bâtiments attenants. À travers les murs, il passe ainsi d'un immeuble à l'autre, s'éloignant du cabaret. En parcourant les coulisses du repère de la confrérie, Vincent comprend que celui-ci a été aménagé dans les étages, sans doute réparti sur plusieurs adresses au sein du même quartier. Certains passages traversent même sous les toits. S'échapper par une des ouvertures sera peut-être la meilleure option si l'occasion se présente. Après un cheminement tortueux, le prisonnier et ses gardiens débouchent dans une vaste pièce sous la charpente, sans doute un ancien grenier ou un séchoir, au milieu de laquelle a été érigée une structure en demi-sphère de facture plus récente. Une porte de bois cloutée, assez basse et épaisse pour être celle d'une prison, en marque l'entrée. La garde rapprochée des mages et deux des jeunes femmes, celles qui portent le livre et l'ostensoir, sont réparties en ligne de chaque côté, formant une sorte de haie d'honneur jusqu'à la porte. Joshua invite Vincent à s'y engager et s'efface devant lui. « Vous ne venez pas ?» demande Cavell. « Ce qui se dira dans le secret du cabinet ne concerne que vous. » Non sans méfiance, Vincent s'avance. En passant entre les gardes, il sent leurs regards inquisiteurs peser sur lui. Leur imposante musculature donne une idée très précise de la brutalité qu'ils sont capables de déchaîner au moindre faux pas. Vincent baisse la tête pour passer la porte et pénètre dans un long couloir, entièrement fait de bois, qui évoque la coursive des cabines d'un bateau. La porte massive se referme derrière lui. À l'extrémité opposée se découpe une autre ouverture, nimbée d'une clarté orangée. Vincent débouche dans un petit cabinet rond dont le plafond bas forme une coupole. Les deux autres jeunes femmes se tiennent derrière les mages qui ont pris place autour d'une table ronde. Le plateau de marbre noir est incrusté d'un motif géométrique triangulaire fait de jade. Chacun des jumeaux occupe une des pointes. Un large anneau de métal argenté est posé dessus. La pièce circulaire est éclairée par des cierges disposés régulièrement sur son pourtour. Les parois sont couvertes de plaques de cuivre rivetées entre elles pour composer une sorte de cuve à l'intérieur de laquelle même le bruit des pas de Vincent est étouffé. La jeune femme chargée de la carafe fait coulisser un panneau derrière lui de telle sorte qu'il n'est tout à coup plus possible de distinguer l'entrée. Le mage blanc invite Vincent à s'asseoir en face de la troisième pointe du triangle. Lui et son double noir saisissent alors l'anneau qu'ils agrippent fermement en fermant les yeux. Vincent scrute le moindre de leurs gestes. Leur attitude solennelle, l'extrême lenteur avec laquelle ils exécutent leurs mouvements et leur accoutrement d'un autre temps, lui rappellent la théâtralisation propre aux exhibitions de magie et aux démonstrations de spiritisme. Il connaît parfaitement ces artifices, ces pseudo-rituels destinés à mettre en condition les spectateurs pour les amener à se convaincre qu'ils vont être les témoins de quelque chose d'extraordinaire. Pour avoir assisté à des dizaines de représentations de Robert Houdin, Vincent sait tout de ces méthodes de conditionnement. Il connaît chacune des ficelles qui concourent à créer une atmosphère surnaturelle propice à l'épanouissement de la crédulité. Bien que n'étant dupe ni du décor ni des manières, Vincent reste perturbé par les jumeaux. Ils sont une énigme à eux seuls. Comment font-ils donc pour avoir une respiration parfaitement synchrone alors même qu'ils ont les paupières closes? leur poitrine se soulève exactement au même tempo et au même moment. Étant cette fois tout proche d'eux, Vincent peut aussi constater que leur teint parfait n'est le fruit d'aucun maquillage. Le grain de leur peau, totalement imberbe, est d'une étonnante finesse. Le mage, habillé de noir, déclare « Saisissez l'anneau, il sera notre lien. Puis fermez les yeux. » Vincent obéit. La sensation le surprend. À l'inverse de ce qui se passe d'ordinaire lorsque l'on touche du métal, il éprouve d'abord une impression de chaleur intense, qui progressivement s'atténue. Les mains des mages lui semblent animées de minuscules vibrations extrêmement rapides qui se transmettent à lui par l'objet. « Nous allons pratiquer le spiritisme, c'est ça ?» Le jumeau blanc achève son inspiration avant de répondre. « N'essayez pas de rattacher ce que vous allez vivre à ce que vous croyez connaître. Nos gestes sont peut-être les mêmes que ceux des impurs qui copient les messagers des âmes, mais nous ne sommes pas des leurs. Je vous ai demandé de fermer les yeux. Dites-nous ensuite avec quel esprit vous souhaitez entrer en contact. » Cavell baisse les paupières. Il tente de contrôler sa respiration, mais le sentiment de vulnérabilité qui s'immisce en lui l'en empêche. « Je souhaite communiquer avec celui qui fit éclore ma vocation, le maître de mon bienfaiteur. » Vincent a volontairement utilisé le terme de maître pour se rapprocher de leur vocabulaire. Alors que les mages restent impassibles, ils s'enquièrent. « Faut-il que je le nomme, que je l'invoque d'une certaine façon ?»« Inutile. Nous devons avant tout ressentir ce qui vous liait. Définissez-le plutôt à travers ce qu'il avait de particulier pour vous. » Vincent réfléchit un instant afin de choisir ses mots avec soin. Il ne doit pas aider les jumeaux à identifier trop facilement celui dont ils parlent. Des indications trop précises leur permettraient de recouper ce que Joshua ou ses sbires ont pu leur rapporter. Même s'il reste vigilant, l'exercice l'oblige tout de même à s'aventurer au cœur de ses véritables sentiments pour définir qui était Robert Houdin pour lui. Il se concentre. « Il est celui qui m'a appris à voir l'au-delà, à ne jamais considérer aucune muraille comme infranchissable. » Il marque une pause. « Il m'a enseigné que derrière toute impasse se cache un passage qui conduit à la vérité des choses. Un homme sage, je le sens très présent, vous. Vous l'associez à tous vos actes. » Lequel des deux a parlé? Vincent est incapable de dire si la voix vient de sa gauche ou de sa droite. Le commentaire, même pertinent, reste cependant assez général pour correspondre à n'importe quelle figure tutélaire ayant éveillé une vocation. Il répond évasivement, mais sincèrement. Je songe à lui chaque jour, chaque fois que je dois faire un choix. Vincent se surprend lui-même à déclarer cette absolue vérité dans cet échange qu'il soupçonne lardé de faux-semblants. La voix du mage lui parvient, posée, égale. « Vous avez à cœur de poursuivre son œuvre, y compris, depuis peu, dans ce qu'elle avait de plus personnel, de plus secrète. Il le sait. Je ressens que vous avez récemment rejoint un autre de ses proches dans cette quête. La présence d'un ami commun est perceptible et vous rapproche encore. » Vincent est troublé, à la fois par la justesse de la perception qui va jusqu'à évoquer Charles, mais aussi par le fait qu'une fois de plus, il ne peut pas dire lequel des deux a parlé, à moins que les deux ne s'expriment ensemble. Le mage reprend. Vous avez récemment découvert un aspect de sa personnalité jusque-là demeuré dans l'ombre. Cela vous a éclairé, n'est-ce pas? Vincent sent à présent une étrange chaleur l'envahir, comme si un flot tiède venu des mains des jumeaux transitait par l'anneau et se déversait en lui. Une lave se répandant, capable de le pétrifier. Comment ces deux êtres peuvent-ils tenir des propos aussi justes sur l'un de ses sentiments les plus intimes? Personne d'autre que lui ne peut s'en douter. Aucun espion n'aurait pu le deviner. Ses mains restent collées au métal sans qu'il puisse les en arracher. Ses bras sont si lourds qu'il ne peut plus les soulever. Il ouvre les yeux. Les mages et les jeunes femmes ont les paupières closes. Il est le seul à voir. Un vertige s'empare de lui, associé à une angoisse inédite. Vincent n'a pas peur pour sa vie. Il ne craint pas de souffrir. Ce serait trop simple, et il préférerait presque. Seul ce qui se passe dans son propre esprit l'épouvante. Il redoute que le pouvoir psychique de ces deux êtres ne fasse voler en éclats sa conception même de la réalité. S'il n'a pas pris part à une supercherie, alors sa perception du monde ne s'en remettra pas. Ses derniers repères risquent de s'effondrer et il basculera dans un gouffre sans fond. Il respire fort, en proie à une détestable sensation de perte de contrôle. « Ne craignez rien, » murmure le mage. « Ce que vous découvrez va vous effrayer, mais pas plus qu'un premier pas vers la liberté. Quittez le confort des savoirs ordinaires. L'inconnu nous remet en cause, mais nous apporte par là même de nouveaux horizons. Il vous faut abandonner vos a priori et simplement vous laisser guider par ce que vous ressentez au plus profond de vous. » Les jumeaux parlent effectivement d'une même voix. Leurs lèvres s'animent simultanément. C'est inhumain, terrifiant, prodigieux. Il ne peut pas s'agir d'un tour. Même Robert Houdin aurait été subjugué. Les jumeaux déclarent « C'est à travers ce qu'un homme sent de plus intime qu'il accède à l'universel. Que souhaitez-vous apprendre de celui qui n'est plus ?» Vincent est déstabilisé. Ses convictions les plus solides vacillent. Il avait prévu de poser une question piège pour les prendre à leur propre jeu et les démasquer, mais tout à coup, une autre possibilité s'offre à lui. Se pourrait-il que ces deux êtres soient réellement capables de le mettre en contact avec l'esprit de Jean-Eugène Robert Houdin? Ce genre de croyance n'est-il pas seulement une manne pour les marchands d'illusions qui s'enrichissent aux dépens de ceux qui espèrent? Parler aux morts, obtenir d'eux les réponses qu'ils n'ont pas pu donner avant de partir. L'idée est si fantastique qu'elle pourrait changer fondamentalement tout ce que sont les hommes jusqu'à leur façon de traverser cette existence. Entrer en contact avec Robert Houdin, s'adresser à lui, avoir le privilège d'un ultime échange par-delà l'absence. Qu'aurait-il alors à lui demander? À moins qu'il ne préfère s'adresser à son père. Tout se bouscule en lui et lui donne la fièvre. Pourtant, il n'aurait aucune question à lui poser véritablement. Simplement l'envie de lui parler et surtout de l'entendre. Votre lien se brouille. Ne vous éloignez pas de celui à qui vous souhaitez vous adresser. Vincent referme aussitôt les yeux. Son esprit s'affole. Il est écartelé entre la puissance de ce qu'il vit et sa méfiance envers ceux qui le lui permettent. Il voudrait laisser libre cours à ses sentiments, apprendre, mais la situation l'en empêche. Il ne doit pas baisser la garde, et pourtant, jamais la vérité de l'homme qu'il est n'a été à ce point exposée. Par quel coup du sort faut-il que ce soit face à eux qui menacent de le détruire? Après avoir tenté d'anéantir son monde, ses pires ennemis pourraient-ils lui en offrir un autre? Vincent ne sait plus ce qu'il avait prévu de leur demander pour les confondre. Tant pis. Il ne peut pas laisser passer la chance que les mages représentent peut-être. Sans aucun calcul, il s'exprime. Durant le peu de temps où j'ai eu le privilège d'étudier auprès de lui, je l'ai souvent vu s'interroger, douter, mais il parvenait toujours à surmonter ses incertitudes. Les mages le coupent. « Ce n'est pas à nous que vous devez vous adresser, mais à lui. Il vous écoute. » Vincent est bouleversé. Les larmes qu'il a versées lorsque Robert Houdin a disparu sont toujours en lui et ne demandent qu'à couler. « Vous êtes parti si vite, » souffle-t-il, la voix brisée. « Vous aviez encore tant à m'apprendre. Vous possédiez des réponses qui me manquent et que je doute d'avoir la force de trouver. Je vous en prie, dites-moi ce que je dois faire. » Vincent est tout à coup en sueur. Ses doigts sont brûlants, sa gorge est sèche. Il n'a pas envie d'ouvrir les yeux. Il ne veut rien faire qui puisse troubler son message. Dans un silence parfait, la voix unie des jumeaux s'élève. « Ce que je sais est à ta portée. Marche sur l'Autriche-Hongrie et monte vers le ciel à la suite des trois sages. Le fantôme te montrera la direction. » Cavell se met à trembler. Cette réponse, aussi insensée soit-elle, trouve pourtant un sens en lui. Il en décrypte des bribes. Une chose est absolument sûre. Les mages ne pouvaient pas l'inventer. Si la fin de l'énigmatique déclaration reste obscure, le début désigne sans l'ombre d'un doute l'accès truqué vers le bureau secret de Robert Houdin. Il faut effectivement monter sur des cartes, dont celles qu'il avait vues de l'Empire austro-hongrois, et rejoindre le trio de savants grecs qui contemplent la lueur dans le ciel. Quant au fantôme, ce pourrait être celui que le magicien faisait voler dans ses spectacles, et qui est désormais suspendu au plafond de son repère. Mais comment cet accessoire pourrait-il l'aider? Les jumeaux reposent l'anneau de liaison. Cette soudaine rupture arrache malgré lui un gémissement à Vincent. Il a tout à coup l'impression de se vider de son énergie. Il lâche l'anneau à son tour. Son cœur ralentit. Il ne s'était pas rendu compte à quel point il battait la chamade, jusqu'à battre presque trop lentement, poussivement. D'un revers de manche, il essuie son front ruisselant. Après cette sensation de chaleur surnaturelle, il est frigorifié, à l'exception de ses mains qui brûlent plus que jamais. Il les regarde, effaré, s'attendant presque à les voir prendre feu sous ses yeux. Il est sous le choc de ce qu'il vient d'entendre, mais plus encore de la façon dont il l'a appris. « Que m'avez-vous fait ?» Les jumeaux sont parfaitement calmes, aucune sueur ne perle à leurs tempes. Le blanc répond. « Nous vous avons permis d'obtenir la réponse à votre question. N'était-ce pas ce que vous souhaitiez ?» Vincent bute sur les mots. « Ce pouvoir, cette aptitude que vous possédez... » Le mage à la robe noire lui souffle. « Joignez vos forces aux nôtres. Si vous nous aidez, nous pourrons vous conduire sur le chemin des esprits. Trouvez les richesses qui serviront notre cause. Ouvrez ce qui nous est fermé dans ce monde. Pour vous, nous ferons de même dans l'autre. » Le mage, vêtu de blanc, fait signe à la jeune femme d'apporter la boisson. Elle remplit trois verres d'un liquide qui ressemble à de l'eau. Vincent a la bouche sèche. Il meurt de soif, mais se méfie néanmoins de ce que le verre peut contenir. Les jumeaux boivent le leur. Convaincu qu'il ne risque pas l'empoisonnement, Vincent s'empresse alors d'avaler le sien. Les gorgées fraîches descendent en lui. Cela ne semble pas étancher sa soif. Il n'est pas dans son état normal. Sa vue se brouille. Est-ce un effet secondaire de ce qu'il vient de ressentir, ou s'agit-il d'un nouveau sortilège? Comme s'il se remplissait de plomb, il se sent soudain devenir plus lourd. Vincent ne contrôle plus ni ses bras ni ses jambes. Son corps pèse tout à coup des tonnes. Brusquement, il s'effondre.